Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le 12 présentée par Fatou. Il est actuellement 12h06 et aujourd'hui nous aurons une chronique sur ce qui se passe sur le campus, sur la vie étudiante. Ensuite nous aurons Maxime Gervais comme invité. Maxime Gervais, il est petit trou de balle et chou à la petite boîte noire. Et ensuite nous aurons Roman Bouhi pour l'écart silencieux et ensuite une pause musicale. C'est parfait. On commence tout de suite avec la chronique sur ce qui se passe sur le campus. Actuellement, à la une cette semaine, c'est une semaine aux couleurs de la nation Abenaki, dans le cadre de la Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation. Une programmation spéciale comportant plusieurs activités de sensibilisation a été concoctée par l'équipe qui œuvre à l'autochtonisation de notre institution. Cette année, l'éclairage est mis sur la nation Abenaki, gardienne des territoires ancestraux sur lesquels se situe l'Université de Sherbrooke. Une occasion unique de rencontrer plusieurs membres de la nation, de découvrir leur réalité historique et contemporaine, leur culture, leur savoir et leur langue. Un nouveau balado a commencé, mes études autrement. Vous manquez de motivation, vous remettez en question vos méthodes d'études. Ce balado pourrait faire partie des pistes de solutions et vous aider à envisager la suite de votre parcours universitaire autrement. Marie-Claude Poirier, psychologue, et Élodie Brouillard, conseillère d'orientation au service à la vie étudiante, s'intéressent au soutien à l'apprentissage depuis plusieurs années. Elles ont récemment lancé le balado « Mes études autrement » pour vous aider à retrouver le plaisir dans vos études. Ensuite, des bulles familiales, un balado porteur d'espoir. Guidé par son désir de mettre en lumière le positif et inspirer un regard nouveau sur la protection de la jeunesse, Marie-Pierre Laprandolé, étudiante en travail social et maman, vous invite à découvrir des bulles familiales, un balado où on retrouve des conversations authentiques, remplies d'émotions et porteuses d'espoir. Le 22 octobre prochain, elle lancera la deuxième saison. Envie de prendre part à l'enregistrement? Vous pouvez vous inscrire parce que normalement, vous avez reçu un courriel de l'université qui vous informe de tout ce qui se passe. Donc, vous pouvez vous inscrire via le lien. Concernant la vie étudiante, la Fondation Force Études a besoin de vous. Le 7 octobre prochain se tiendra l'Assemblée Générale Annuelle de la Fondation Force Études. Cette fondation, qui existe depuis 1985, est là pour offrir de l'aide financière ponctuelle à la communauté étudiante de l'UDS pour que les enjeux financiers ne soient pas un frein aux études. Lors de cette rencontre, vous en apprendrez plus sur les fonds mobilisés et le nombre de personnes rejointes par ces services. En vue de vous impliquer, de soutenir vos pairs et de changer la donne, c'est l'occasion parfaite. Vous pouvez visiter le site web de la Fondation Force Études. Aussi, nous avons le mardi 30 septembre à 17h demain, une réflexion autour des espaces sociaux et de la place du soi. Le regroupement, Café Philo-Sociaux vous convie à venir échanger autour des espaces sociaux et la place de soi dans une ambiance accueillante et chaleureuse. Quel impact ont les téléphones intelligents et les réseaux sociaux sur nos vies? Comment ils ont modifié nos espaces publics? Comment nos communautés et notre identité personnelle sont modifiées par les téléphones? Envie de prendre part à cette réflexion autour de ces sujets? C'est l'occasion de faire partie. Et le café est fourni. Et après, nous avons le soutien à l'apprentissage, former des équipes de travail. Les travaux d'équipe sont fréquemment imposés dans le cadre des activités pédagogiques et peuvent devenir une source de frustration et de tension avec ses collègues. Pour éviter les situations désagréables, mieux vaut choisir soigneusement les personnes avec qui former une équipe. Vous retrouverez toutes les informations que je viens de vous citer exactement dans le courriel envoyé par l'université, le service à la vie étudiante. À l'agenda cette semaine, du 27 août au 14 décembre 2025, au Centre culturel, nous avons l'exposition « Zone frontière » de Joanna Chelkowska. Du 11 septembre au 26 octobre, c'est la période d'inscription pour les étudiants au concours d'Elita Langue. Le 29 septembre au 3 octobre, une semaine de la vérité et de la réconciliation à l'UDS. Le 29 septembre et 17 autres dates qui seront à venir à 10h, nous avons le club de marche de la permission. Le 29 septembre et 18 autres dates à venir, nous avons l'initiation à la méditation de 11h30 à 12h. Le lundi 29 septembre de 19h à 22h, nous aurons la projection du film Gabriel de Louise Archambault au Ciné-Campus. Le mardi 30 septembre, nous avons ce qui est jour férié à l'université. C'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ensuite, à 17h, nous avons le pouvoir. Dans le fond, c'est quoi? Et le mardi 30 septembre, à 17h, café philosociaux, communauté, les racines de soi. Ensuite, le mercredi, nous avons la journée thématique couleur Abenaki. Encore le mercredi à 11h et 14h30, nous avons le marché public au campus principal. Alors, c'était tout pour votre chronique d'aujourd'hui, pour ce qui va se passer sur le campus cette semaine et pour les semaines à venir. Nous allons tout de suite passer en pause musicale et revenir par la suite avec notre prochain invité.
À mon goût, je suis née hier, je ferai le tour de la terre entière, comme je suis comme une rivière, un enfant qui part, triompher des frontières, fier, et malgré tout, les yeux dans la brume, quand j'avoue que j'irai.
Yeah. Recherche, conférence, événement.
Le 12.
Ça part ici.
Rebonjour, il est actuellement 12h17 sur les ondes de la CEFAC. Et actuellement, nous allons recevoir Maxime Gervais, humoriste, comédien et chanteur. Bonjour Maxime, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends à la perfection.
Comment allez-vous?
Ça va super bien, vous?
Super, bien, merci. Alors, oui. Dans le contexte de l'actualité, on parle d'un spectacle à la petite boîte noire où l'énergie punk et le post-punk sera à l'honneur. Quelle sera la formule de ce concert et aussi, quelle sera l'ambiance que vous souhaitez installer sur la scène?
Oui, en gros, c'est un spectacle qu'on fait avec nos amis de Chou. Chou, c'est un groupe avec lequel on s'entend vraiment bien. Fait qu'en gros, il y a Chou qui va ouvrir la soirée. Puis après ça, il y a mon groupe à moi qui est Maxime Gervais et les Petits Trous de Balle. Mm-hmm. Moi, en gros, c'est des chansons que je fais chez moi depuis plusieurs années. Là, ça doit faire 15 ans certains que je fais ça. Mm-hmm. Puis là, j'ai monté un groupe pour faire les chansons. Puis, tu sais, on essaie juste que ce soit une soirée de party, puis que ça danse, ça bouge, on a du fun, personne ne se prend trop au sérieux, puis c'est ça. Come as you are, comme on dit.
Merci beaucoup, Maxime. Aussi, on semble souligner que vos chansons sont dansantes et simples, avec un esprit de party assumé. Comment parvenez-vous à maintenir cette légèreté tout en proposant une musique qui capte l'attention du public en spectacle?
Ouais. Tu sais, moi, à base, faut savoir que je suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un musicien. Là, j'ai des connaissances et talents vraiment limités. Fait que, tu sais, dans mes inspirations, il y a toujours eu des groupes comme les Ramones, qu'ils pouvaient faire une chanson avec trois accords, puis ça finit que c'est super bon. Fait que, à la base, il y a ça. Puis, dans le groupe, je me suis entouré de trop bons musiciens. Il y a entre autres Valérie Lachance-Guimette qui joue du saxophone, Jean-Simon Tessier au clavier. Eux autres, c'est des vrais musiciens professionnels. Fait qu'ils amènent vraiment une touche où, je sais pas comment dire, disons qu'ils amènent les tunes à un autre niveau, puis ça fait juste bonifier le spectacle, dans le fond.
Parfait. La devise zip zap, puis on passe à autre chose, illustre bien votre approche très directe. Comment ce mot d'ordre influence-t-il la construction du répertoire et la façon de faire évoluer le spectacle pendant la soirée?
Ouais, je pense que c'est le côté de pas trop se prendre au sérieux. On balance une chanson une après l'autre. Mm-hmm. On rit. Tu sais, je sais pas comment dire. Il y a un côté, je veux pas dire broche à foin parce qu'on essaie de bien faire les choses, mais tu sais, ça reste qu'il y a l'esprit punk. Fait que si quelqu'un se trompe ou si quelqu'un, je sais pas, là, se souvient plus comment la chanson part, ça arrive des fois, tu sais, ça peut arriver une toune qui finit qu'il y a quelqu'un qui continue à jouer dans le vide. Mais on dirait que moi, j'adore ce côté-là que, il n'y a aucune conséquence vraiment, puis on essaie de célébrer ça, cet esprit-là, qui est très humain au bout du compte, là. Fait que, j'ose croire qu'il n'y a jamais un spectacle qui ressemble à l'autre.
En parallèle du spectacle, vous prêtez votre voix et votre plume au nouvel extrait « Amour-haine » du Winston Band. Comment s'est déroulée cette collaboration de l'écriture du couplet jusqu'à l'enregistrement?
Noam, qui est le drummer du Winston Band, ça a été notre premier drummer dans les Petits Trous de Balle, puis ça a vraiment cliqué, c'est devenu un ami presque automatiquement. Mm-hmm. Fait que avec le temps, malheureusement, il pouvait plus, il a plus le temps d'être dans les Petits Trous de Balle, mais reste qu'il m'a contacté, puis il m'a demandé si ça me tentait de chanter, de collaborer en fait pour une chanson avec son groupe, le Winston Band, ce qui est la première fois que ça m'arrivait, tu sais, parce que vous aurez compris que je me qualifie pas non plus de chanteur tant que ça. Fait que j'étais super content. J'étais allé voir dans le studio, puis ça a comme cliqué automatiquement. Puis on a enregistré la chanson. Puis c'est ça. Je pense que c'est un bon fit, comme on pourrait se dire.
OK, parfait. En parlant de cette chanson, la chanson « Amour-haine » aborde le paradoxe des sentiments contradictoires que l'on entretient envers soi-même et les choses du quotidien. Comment avez-vous approché ce thème pour y ajouter votre humour et votre style?
Ouais, je trouve, tu sais, à la base, on est tellement dans une époque de... je fais juste regarder, mettons, les stories que je publie sur Instagram, ça va partir d'un sujet super dark, je pense à Gaza, mettons. Puis là, après ça, il y a une autre story qui est moi qui essaie de promouvoir un de mes spectacles d'humour ou de musique. Tu sais. Je trouve qu'on vit dans... C'est ça, là, tout est décalé. Mm-hmm. Puis, bon, il y a ça d'une part. Moi, après ça, ce que je voulais amener dans comme ma touche, mettons le couplet que moi je chante, ça parle plus disons de l'auto-appréciation ou dépréciation. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est ma voix, je l'aime puis je l'aime pas. Mm-hmm. Ma face, je l'aime puis je l'aime pas. Mon corps, je l'aime puis je l'aime pas. Fait qu'il y a comme ce côté-là qui est. Comment dire? Admettons, si je réécoutais l'entrevue qu'on fait en ce moment, probablement que je me taperais ses nerfs. Mais après ça, pour faire ce métier-là, il faut avoir une espèce de confiance aussi. Donc, s'aimer, fait que tout ça cohabite, là, puis c'est ça. On navigue là-dedans. Fait que, ouais, c'est un peu comme ça que moi, je l'ai vu, là, à mon règne.
Ouais, je comprends. Et pour finir, en regardant ces deux projets, quelles retombées espérez-vous sur votre parcours artistique, que ce soit en termes de nouvelles collaborations, de diffusion, de développement de votre public?
Non, pour le spectacle, puis le projet en tant que tel, moi, c'est sûr, mon gagne-pain principal, ça va être plus humoriste. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on dirait que tout ce qui a rapport à l'humour, je le vois plus d'un angle, tu sais, je vais penser à un développement de carrière ou peu importe, là, tu sais, essayer d'avoir des moves stratégiques. Mais on dirait que la musique, je me suis dit, hey, je veux garder ça pas trop professionnel, disons. Parce que, tu sais, dans ce milieu-là, je sais pas comment dire, mais on dirait que tous nos hobbies puis tous nos passe-temps deviennent une manière de faire de l'argent ou de monnayer ça. Mm-hmm. Puis on dirait que la musique, je disais, hey, je veux garder ça un projet de cœur. Fait que j'essaie de garder ça un peu do-it-yourself. Encore une fois, l'énergie punk, je fais ça avec des amis. Mm-hmm. C'est pour avoir du fun, puis c'est ça. Ouais, j'essaie de conserver cet esprit-là parce que j'ai l'impression, malheureusement, que si ça devient trop sérieux, trop rigide ou trop placé, je vais plus avoir autant de fun, tu sais.
Ouais, je comprends.
Ouais. Fait qu'on dirait que, ouais, le mot d'ordre, c'est vraiment juste d'avoir du fun puis faire le party.
Deux choses qui vont ensemble.
Ben, faut le dire, hein.
Alors, c'était Maxime Gervais, humoriste, comédien et chanteur, qui nous parlait de Maxime Gervais, les petits trous de balles. Alors, merci beaucoup, Maxime, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.
Hey, merci beaucoup. On se voit 2 octobre à la petite boîte noire avec Chou et les petits trous de balles.
Effectivement, on se retrouve le 2 octobre. Merci, Maxime.
Yeah. Merci beaucoup. Salut.
Alors, nous allons tout de suite retourner en pause musicale avant de revenir retrouver Roman pour sa chronique.
Tu te lèves ou tu dors.
quelques niaiseries. Suis CFAQ 88.3 sur Facebook et Instagram.
Bonjour sur les ondes de la CFAQ, il est actuellement 12h36 et nous allons écouter Romane faire sa chronique. Romane qu'on a accueilli la semaine dernière, sa chronique qui nous parle de l'écart silencieux et nous allons tout de suite l'écouter.
Bonjour Romane, comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Et oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, tu nous as préparé une chronique.
Oui voilà, donc bonjour à tous ici sur le plateau et puis à vous qui nous écoutez. On va commencer la chronique avec une petite question. Vous allez voir, ça va être sympa. Enfin, je pense. À votre avis, combien y a-t-il d'étudiants de pourcents étudiants ici, à notre université à Sherbrooke? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre beaucoup parce qu'on est presque 58% d'étudiants de, avec E, j'assiste, contre seulement 42% d'étudiants. Autrement dit, dans une salle de cours typique, il y a bien plus de filles que de garçons. Et donc ça, en fait, c'est pas seulement le cas à Sherbrooke. Partout au Québec, les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, au cégep et même à l'université. Pour donner quelques chiffres, chaque année, ce sont environ 20 000 diplômes de plus qui sont remis à des femmes. Et dans les pays de l'OCDE, pour voir un peu plus grand, on compte 6 filles diplômées pour 4 garçons. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît énorme. Mais alors pourquoi ? Comment expliquer que les garçons qui suivent pourtant, jusqu'à preuve du contraire, les mêmes cours avec les mêmes professeurs, décrochent plus souvent ou réussissent moins bien? Eh bien, c'est justement la question qu'a voulu explorer Marwa Rizki, que vous connaissez très certainement comme la députée de Saint-Laurent à l'Assemblée nationale. Dans son documentaire « L'écart silencieux », Madame Rizki met vraiment l'accent sur sa casquette de maman de deux petits garçons et elle montre en fait que leur réussite lui tient particulièrement à cœur. Enfin bref, rentrons dans le cœur du sujet, alors pourquoi est-ce que les filles réussissent mieux à l'école ? Dans le documentaire, on y rappelle un premier fait scientifique, le cerveau des filles et des garçons ne se développe pas au même rythme. On a une maturation cérébrale qui est en fait différente, surtout pendant l'enfance et l'adolescence. Résultat, dès la petite enfance, les garçons paraissent souvent un peu en retard, ils ont plus de difficultés d'adaptation, d'apprentissage, et on le voit même parfois sur le plan comportemental. Combien de fois on a entendu les mamans s'inquiéter parce que leur petit garçon était un peu trop jouette ou un peu trop immature. Et elles, les filles, en moyenne, développent plutôt certaines compétences comme l'attention, le langage, la régulation émotionnelle, et donc ça leur donne un léger avantage scolaire qui, au fil des années, finit par compter beaucoup. À l'adolescence, on le remarque encore plus, beaucoup de filles trouvent les garçons immatures. Eh bien, mesdames, vous n'avez pas tout à fait tort, car le circuit de gestion émotionnelle des filles arrive à maturité plus vite, alors que ceux des garçons se développent plus tard. Mais attention, il n'y a pas que la biologie. Un autre facteur qui revient constamment, roulement de tambour, c'est la lecture. Le documentaire Assist, en fait une exposition précoce et régulière à la lecture dès les premières années, c'est vraiment un levier décisif pour la réussite scolaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, un enfant qui réussit en lecture en première année a 83% de chances d'obtenir son diplôme du secondaire à temps, mais si les bases ne sont pas acquises, ce taux chute à 24% seulement. Autrement dit, réussir à lire tôt, c'est presque assurer son avenir scolaire. Les experts que l'on entend dans l'écart silencieux, le documentaire de Marwa Rizki, sont très clairs. En fait, la clé, c'est d'intervenir tôt. Plus on va avoir un enfant qui est exposé à la lecture, au langage, aux histoires, plus il a de chances de réussir. Mais malheureusement, au Québec, certains estiment que l'apprentissage du français, de la lecture et de l'écriture n'est pas assez mis au cœur du système et ça se reflète ensuite dans les chiffres de réussite. C'est donc pas en fait une question seulement de biologie, mais c'est aussi une question de société. Qu'est-ce qu'on va valoriser à l'école ? Qu'est-ce qu'on encourage à la maison ? Et comment est-ce qu'on soutient ces petits garçons dès leur plus jeune âge ? Mm-hmm. Si on revient un petit peu à Sherbrooke, donc notre université ne fait pas exception, avec près de 58% d'étudiantes, on l'a déjà dit. On voit bien que cet écart scolaire se poursuit jusque dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un peu autour de vous. Dans certaines facultés comme la santé ou l'éducation, ce sont surtout des femmes, alors que dans d'autres comme le génie ou l'informatique, on peut se le dire, ce sont les hommes qui dominent. Pourquoi ? Les chiffres sont parlants. Au Québec, parmi les nouveaux diplômés en génie, seulement environ 21% sont des femmes. Et si on remonte un peu, en 2017, l'ordre des ingénieurs comptait 9000 femmes pour plus de 54000 hommes. Autrement dit, à peine 15%, ce qui n'est vraiment pas énorme. Et ce déséquilibre, en fait, il s'explique en grande partie par des stéréotypes de genre. Depuis tout petit, on a des petits garçons qui sont encouragés à aller vers les robots, les constructions, les mathématiques, alors que les filles, elles, sont plutôt orientées vers les langues, l'éducation ou encore le soin. Et donc, résultat de tout ça, beaucoup d'entre elles, même lorsqu'elles réussissent très bien en sciences ou en maths, doutent davantage de leur place en génie ou en informatique. Et puis il y a aussi bien sûr le manque de modèles visibles quand tu arrives en cours et que tu ne vois que des hommes autour de toi, prof compris, ça peut aussi un peu envoyer le message de ce domaine n'est pas vraiment fait pour toi. En fait, avec un peu d'humour, on pourrait dire que ça commence tôt, aux hommes on offre des robots et aux filles des poupées et des années plus tard ça se traduit par plus d'ingénieurs d'un côté et plus d'aides-soignantes ou d'enseignantes de l'autre. Comme quoi, en fait, nos jouets d'enfance orientent parfois nos diplômes. Mais on voit bien qu'il y a du progrès, hein, quand même. De plus en plus, on a des programmes de mentorat, de bourse qui essaient d'attirer les filles dans les domaines du STEM. Et lentement, mais bon, sûrement, le pourcentage de femmes en génie augmente. Et c'est là, en fait, que la réflexion devient intéressante pour nous, étudiants à Sherbrooke. Cet écart silencieux, en fait, ce n'est pas qu'une statistique lointaine, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours dans nos cours, dans nos groupes de travail, dans la dynamique de nos classes. Mais alors, comment agir ? Ben, tout d'abord, en reconnaissant que la réussite scolaire, ce n'est pas seulement l'affaire de l'école, hein, c'est aussi une question de famille, de société et même d'habitudes quotidiennes, comme par exemple lire un livre à un enfant le soir. Et puis ensuite, en ouvrant le dialogue. Parce que cet écart, s'il reste silencieux, eh oui, il risque de se creuser encore. Mais si on parle, si on met en place des solutions dès la petite enfance, on peut changer les choses. Alors on va conclure comme ça, je vous pose la question. Vous, dans vos cours, est-ce que vous sentez cette différence? Est-ce que vous trouvez qu'elle influence la dynamique? En tout cas, l'écart silencieux, le documentaire de Marwa Rezki, ne prétend pas donner toutes les réponses, mais il a le mérite de lancer la conversation et c'est déjà, je pense, une étape essentielle. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est de donner à tous les enfants, filles comme garçons, les mêmes chances de réussir. Merci à tous.
Mais merci. C'est vraiment très intéressant. Puis il y a même, tu sais, je sais pas, là, j'ai pas de chiffres devant moi. Oui. C'est pas aussi documenté, mais c'est mon ressenti aussi, c'est que beaucoup de métiers typiquement masculins, je crois, qui ne demandent pas beaucoup d'études pour un salaire élevé, mm-hmm. ce qui est moins le cas pour des métiers, on va dire, typiquement féminins. Donc, je sais pas quoi faire avec ces informations là, mais moi qui ai des enfants, je crois que je suis le seul autour de la table à avoir des enfants, donc c'est sûr que ça me conscientise un peu à tout ça, puis à continuer à le faire lire ses histoires le et soir, même quand il ne veut pas les lire. Mais merci beaucoup, Romane. Très intéressant. J'ai bien hâte de les entendre la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui.
Le 12. Culture, recherche, conférence, événement. Le 12.
Tout ça part ici.
I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
Recherche,
conférence,
événement. Le 12.
Ça part ici.
Il est actuellement 12h50 sur les ondes de la CEFAC et on va faire une petite chronique où on va parler santé avec le ministre Christian Dubé et le pari des 1,2 million de patients. Alors, le ministre de la Santé a annoncé un objectif audacieux, prendre en charge 1,2 million de patients orphelins dès janvier. L'annonce a de quoi faire attirer l'attention. puisqu'elle vise directement un des problèmes les plus criants du système de santé québécois, l'accès aux soins de première ligne. Aujourd'hui, des centaines de milliers de Québécois vivent sans médecin de famille, ce qui les pousse à s'en remettre aux cliniques sans rendez-vous, aux urgences débordées ou encore, dans certains cas, à renoncer aux soins. Dubé présente ce projet comme une solution concrète et urgente, mais derrière le chiffre, c'est toute une question d'organisation et de faisabilité qui se pose. Où trouvera-t-on les ressources humaines pour absorber une telle masse de patients en quelques mois ? Les médecins, déjà surchargés, ne cessent de dénoncer un manque de temps et des tâches administratives étouffantes. Quant aux infirmières, praticiennes, spécialisées aux autres professionnels de la santé, elles sont aussi en nombre limité. Il y a bien sûr la volonté politique améliorer la gestion, optimiser les ressources, élargir le rôle des équipes interdisciplinaires, mais beaucoup se demandent si l'annonce ne relève pas davantage d'un effet de communication que d'un véritable plan structuré. L'histoire récente du Québec est remplie de réformes de santé promises comme des tournants majeurs, mais qui se sont souvent étouffées dans les contraintes budgétaires, la résistance du terrain et la lourdeur administrative. Si Christian Dubé réussit ce pari, il pourra marquer un point décisif dans son projet de modernisation du réseau de la santé. Mais si cet objectif échoue, il pourrait au contraire alimenter davantage le cynisme et la frustration d'une population déjà éprouvée par les délais d'attente interminables. Alors, c'était tout pour cette chronique et aujourd'hui, tout pour cette émission du 12. On remercie nos invités, Maxime Gervais, humoriste, comédien et musicien, et aussi Roman pour sa chronique. Nous allons tout de suite retourner en onde avec une pause musicale.
Thank you. C'est FAC. Ça part ici.